Chapitre 28. Le 19 août 2016, 15h. Tout va bien, Valou. Au texto était jointe une photo de Valentine, casquée, harnachée d'un baudrier, perchée avec un groupe d'ados au-dessus d'une spectaculaire cascade. Clotilde n'avait aucune raison de s'inquiéter. L'activité canyoning était encadrée par des moniteurs confirmés et Valentine était une fille sportive. Pourtant, elle n'arrivait pas à chasser complètement le pressentiment qui la tiraillait, qu'elle mettait sur le compte de ses mystères accumulés, cette étrange et sournoise pression autour d'eux. Franck, parti pour la journée à plonger au large de Galeria, avait au moins raison sur un point. Elle ne devait pas ruminer, elle devait avancer. Elle marcha sur le petit chemin de gravier rose qui menait au mobilhome A31, réputé le mieux entretenu du camping. Le propriétaire des lieux avait poussé l'aménagement de son emplacement jusqu'à poser des panneaux solaires sur le toit, un récupérateur d'eau et une petite éolienne perchée en haut d'un mât, juste à côté du drapeau allemand. Jakob Schreiber était le plus ancien résident du camping des Eupprocht. Il y était venu pour la première fois avec sa femme, au début des années 60, avec un sac à dos chacun et une moto pour deux. Puis, il y était revenu dans les années 70, avec une Audi 100 et une tente canadienne pour trois. Leur fils Hermann n'avait pas 3 mois. Ils revinrent ensuite chaque année, louèrent pour la première fois le mobilhome A31 en 1977, l'achetèrent en 81. Ce furent les meilleures années, celles où Jakob personnalisa son lopin, cultiva son jardin, monta une véranda. À partir des années 90, l'histoire s'écrivit en sens inverse. D'abord, Jakob et Anke passèrent à nouveau leurs vacances à deux, dès qu'Hermann eut 19 ans et resta dans leur appartement de Leverkusen pour travailler 2 mois l'été chez Bayer. Puis, à partir de 2009, lorsque Anke ferma définitivement les yeux à la Klinikum, Jakob continua de revenir aux Eupprocht plus de 3 mois par an, seul cette fois. Tout comme il existe dans les villages un vieil érudit qui en conserve l'histoire, dans les entreprises, un vieux documentaliste qui en conserve les archives, il existait dans le camping un vieux touriste qui en conservait les images. Près de 60 étés depuis 1961. Les plus belles images, Jakob en avait fait don au patron. Elles étaient affichées à l'accueil, au bar, sous la pergola. Des images en noir et blanc, des photos de bikini d'antan, de danse sur la plage en pantalon pas de def, de soirées foot franco-allemandes de 1962 à 2014, de sourires d'enfants, de barbecues géants. Jakob Schreiber était un passionné de photos. Tendance maniaque et obsessionnelle. Avec le temps, il était devenu un témoin presque muet. Jakob Schreiber fit entrer Clotilde avec une courtoisie un peu démodée. La plupart des murs de son mobilhome étaient couverts de grands pêle-mêles sur lesquels des centaines de photos étaient accrochées, sans ordre apparent. Le premier réflexe de Clotilde aurait été de fouiller au hasard du regard pour rechercher les années qui l'intéressaient. Elle se retint par politesse. « Monsieur Schreiber, j'aimerais retrouver des photos, toutes celles de l'été 89. »«
Celui de l'accident de vos parents et de votre frère ?»
Jakob s'exprimait avec un accent allemand prononcé. Parlait fort, pour couvrir la radio, une station allemande qui ne diffusait aucune musique, seulement la voix monocorde d'un animateur.
Je comprends, je comprends.
Et tout en parlant, il se précipita sur son téléphone portable pour appuyer sur les touches. Cela dura plus de 30 secondes, au point que Clotilde hésita à lui rendre son impolitesse et à se lever pour trouver directement sur les murs les clichés qu'elle cherchait.
Désolée, mademoiselle Idrissi, fit Jakob alors qu'elle allait se lever. Je ne suis qu'un veuf retraité avec des manies de petit garçon. Connaissez-vous qui veut gagner des millions dans son salon ?
Clotilde secoua négativement la tête. C'est le même jeu qu'à la télévision, mais adapté à la radio. Il faut s'abonner avec son téléphone, télécharger une application. Ensuite, l'animateur pose des questions. Vous devez répondre en moins de 3 secondes. Un délai trop court pour chercher la solution sur Internet. Tapez A, B, C ou D. Si vous avez bon, vous continuez. Il n'y a que pour les 3 dernières questions que vous n'avez aucune proposition.
On gagne vraiment 1 million si on a tout bon ?
Oui, il paraît. Tout est payé par la pub. Le programme cartonne en Allemagne. Des centaines de milliers de connectés. Mais je ne suis jamais allé au-delà de la 10e question, comme l'immense majorité des Allemands.
Et là ? J'en suis à la 9e. On atteint le second palier à la 12e. Mais j'ai du temps. La prochaine question ne sera pas posée avant 15 minutes. La pub, je vous dis. Alors, été 89, c'est bien cela ?
Jacob se leva. Le septuagénaire semblait encore assez alerte. Il entra dans la seconde pièce du mobilhome.
« La chambre d'Hermann », expliqua-t-il. « Je l'ai transformée en studio photo à partir des années 90. »
Des dizaines de boîtes archives, toutes étiquetées et numérotées, étaient parfaitement rangées sur des étagères. Été 61, été 62, et ainsi de suite jusqu'en 2015. Les dernières années étaient archivées dans plusieurs dossiers.
« Je prends plusieurs centaines de photos par an », expliqua Jacob. « Surtout depuis le numérique. Mais même avant, je vidais déjà quelques dizaines de pellicules chaque été. Allons-y, 89. »
Il monta sur un tabouret, tira la boîte archive et se retourna vers Clotilde.
« Si vos parents n'étaient pas morts dans un accident mais assassinés, il y a toutes les chances que la tête de l'assassin soit sur l'un de ces clichés. »
Elle crut d'abord qu'il était sérieux, avant que le vieil Allemand ne lui sourît.
« Et moi, je serai le témoin à éliminer. Mais je me doute que vous venez seulement par nostalgie.
Ça arrive parfois, d'anciens touristes qui me demandent de vieilles photos pour un mariage, un anniversaire. » Il regarda à nouveau son téléphone portable. C'était presque un toc, car la radio continuait de diffuser une série de jingles en allemand. Puis, il ouvrit le carton. Le temps d'une seconde, Clotilde crut que Jacob allait mourir là, devant ses yeux, terrassé par une crise cardiaque. Valentine attendait son tour pour se jeter dans le vide. Ça n'avait pas l'air bien sorcier. Il fallait d'abord descendre en rappel les 7 premiers mètres, rester suspendu sur la petite plateforme à mi-cascade, puis respirer un grand coup, se pincer le nez et sauter. Le bassin au-dessous, la plus large des piscines naturelles des gorges du Tsoïku, était profond de 3 mètres d'après les moniteurs. Nils et Clara étaient déjà descendus. Il restait seulement Tahir devant elle. Valentine ne pouvait pas savoir. Peut-être valait-il mieux d'ailleurs. Valentine ne pouvait pas savoir que le mousqueton auquel était fixé le baudrier, celui dans lequel passait la corde qui la retiendrait, était sur le point de céder. Qu'au moindre mouvement trop brusque, la sécurité ne fonctionnerait pas et qu'il lâcherait. Valentine observa le vide avec une excitation qui ne laissait aucune place à l'appréhension. De la plateforme, Tahir venait de sauter dans la cascade. Son cri presque animal avait laissé place à un grand éclat de rire dès qu'il avait refait surface. Du pur bonheur. Valentine rimait avec adrénaline. Valentine ne pouvait pas savoir que le matériel qu'on lui avait confié, quelques minutes avant son départ, avait été saboté. C'était son tour. Jérôme, le moniteur de canyoning, posa sa main sur son poignet, la guida vers le vide tout en passant la corde autour de sa taille. Le carton était vide. Été 89. Un dossier creux. Aucune photo. Aucun négatif.
« Je ne comprends pas. »
balbutia Jacob. Il passa sa main dans le carton comme pour vérifier qu'il n'y avait pas un double fond. C'en était presque comique. Il remonta sur le tabouret, tira les cartons voisins pour vérifier que rien n'était tombé derrière, sans rien trouver. Il ouvrit les cartons d'à côté, sans renoncer, en grognant des Scheisse et des Verdammte. Le vide dans ce dossier, c'était comme si toute une vie bien rangée avait été chamboulée, comme si le contenu de toutes ces boîtes d'archives allait à son tour s'envoler, tel un jeu de dominos qui bascule les uns sur les autres. Clotilde hésita à dire à Jacob de laisser tomber, que ce n'était pas son rangement qui était en cause, qu'il n'avait commis aucune erreur, que simplement ses archives avaient été volées, qu'un fantôme était passé par là. Comme pour son portefeuille dans le coffre, comme pour ce courrier de sa mère, comme pour la table du petit-déjeuner.
« Je ne comprends pas !» répétèrent l'infini Jacob.
Un jingle à la radio sembla enfin le sortir de son impasse obsessionnelle. L'animateur de « Qui veut gagner des millions dans son salon ?» allait reprendre. 10e question. Jacob se figea soudain. L'animateur posa une question incompréhensible, avec un débit de voix surréaliste, puis claqua plus vite encore les propositions.
A, Goethe. B. Mann. C. Kafka. D. Musil. Ein, zwei, drei. Un kling explosa du portable de Jacob. Ja, antwort B. Seul Thomas Mann a séjourné au sanatorium de Davos. Aucun doute. Sa jubilation le laissa euphorique quelques instants encore, avant que le carton posé à ses pieds ne le ramène à la triste réalité. Peut-être que je perds la boule, mademoiselle Idrissi. Je passe mes journées à ranger ces foutus dossiers, et le jour où on m'en demande un... Ce n'est pas grave, monsieur Schreiber. Comme vous l'avez dit, seulement de la nostalgie. Je dois devenir fou. Pourtant, vous avez vu, Fraulein. Je l'entretiens, cette verdammte de mémoire. À la radio, l'animateur confirma. Antwort B, Thomas Mann, avant un nouvel interminable tunnel de publicité. Clotilde se leva. Elle se cognait à un nouveau cul-de-sac. Restait à interroger Maria Chiara et Cassano. Retourner interroger le sergent Cesare ou Garcia également. Ou, mieux même, avoir une conversation avec Aurelia, sa fille. Kling. Cette fois, le message provenait du portable de Clotilde. Natale. Elle se sentit rougir jusqu'aux oreilles, et dans un réflexe de gamine surprise à parler à son amoureux, elle coupa son téléphone. Plus tard. Elle lirait son message plus tard. Pourquoi pas à l'abri dans sa grotte des veaux marins. Je vous le répète, ce n'est pas grave, monsieur Schreiber. L'Allemand grattait les rares cheveux gris qui lui restaient sur la tête. Si vous n'êtes pas trop pressé, je pourrais retrouver tout ce que vous cherchez sur le cloud.
Le quoi ?
Le cloud ? C'est une espèce d'espace de sauvegarde sur Internet. Ça m'a pris des années, mais j'ai scanné toutes les photos depuis 1961 et je les ai stockées dans ce bunker virtuel. Vous imaginez, si ma landhouse brûlait ou était emportée par une tempête ? Sur le cloud, les fichiers sont archivés pour l'éternité comme une concession à perpétuité dans un cimetière. Il me faut juste une bonne connexion Wi-Fi, une clé USB, et je devrais pouvoir vous retrouver tout ça. Clotilde ne connaissait pas grand-chose à l'informatique, mais il lui semblait difficile que le fantôme invisible errant dans le camping puisse également s'introduire dans les nuages pour y dérober des fichiers gardés par les anges. Elle reprenait espoir. « Faut que j'aille avec mon ordinateur portable à l'accueil », précisa Jacob. « C'est là où la connexion est la plus puissante. Je demanderai à Cherbonne et Spinello de me faire une place ce soir. Ici, j'ai une HP pour les imprimer. Si tout va bien, vous aurez vos photos demain matin, ça ira ?» Clotilde hésita à lui sauter au cou. Elle se retint. La radio continuait de brailler des jingles débiles. Elle se prit à espérer que l'animateur pose une nouvelle question pour lui offrir un prétexte de laisser là le retraité, de se précipiter, de rallumer son téléphone portable et de courir lire le message dans sa caverne. À la radio, pour la première fois, une chanson passait. « Je vous offre un thé, mademoiselle Idrissi. » Jérôme assurait la descente de Valentine. Il avait passé la corde de rappel autour de sa taille et lâchait du mou par petits à-coups, dizaines de centimètres par dizaines de centimètres. La routine. Elle assurait la gamine. Valentine. Un beau brin de fille qui n'avait pas froid aux yeux. Il contrôla la descente du regard. Encore 5 mètres et elle attendrait la plateforme du haut de laquelle elle pouvait lâcher la corde et se jeter dans la cascade, telle qu'on leur avait enseignée. Bien raide, droite comme un bâton, pour que les pieds pénètrent dans l'eau d'abord, pour ne pas se fracasser le dos ou la nuque sous l'impact. La petite Valentine était vraiment jolie. Jérôme se déconcentra un bref instant. Qu'il l'ait été davantage n'aurait pourtant rien changé. Il sentit d'abord la corde mollir, comme si elle ne supportait plus aucun poids. Puis, dans la même seconde, il la vit pendre dans le vide, tel un long serpent qui se serait échappé. Et le corps de Valentine tombait. Pas comme un bâton. Tombait, en boule, tête en dessous, comme une pierre recroquevillée.